La compagnie des auteurs, Mathieu Garrigou-Lagrange.
Bonjour à toutes, bonjour à tous. Davantage qu'un personnage, Robinson est une allégorie. Jeté sur une île déserte et seul rescapé de son équipage, il doit parcourir en quelques années seulement toutes les étapes que l'humanité a mis des siècles à traverser, du chasseur-cueilleur à l'agriculteur, puis à l'éleveur. Mais il doit également faire ce trajet moral qu'est l'acceptation de sa condition, la rédemption pour ses péchés commis du temps où il vivait parmi les hommes. C'est donc bien de la condition humaine qu'il s'agit avec ce roman, comme nous le voyons ici depuis lundi. Et lundi, c'était avec Baudouin Millet. Nous avons parlé de la vie de Daniel Defoe, qui a toujours récusé la paternité de Robinson Crusoe, qu'il considérait comme un texte trop léger. Hier, avec Daniel Dubois-Marcoing, c'est du rapport de ce livre avec la littérature enfantine, des relations aussi de Robinson avec son père et de la figure de l'altérité dont il a été question. Et enfin, demain, sans rapport avec les autres émissions de la semaine, nous parlerons du livre d'Éric Dussert, Caché E.E.S. par la forêt, qui traite des femmes écrivains injustement oubliées par l'histoire de la littérature. Et aujourd'hui ? Aujourd'hui, pour faire d'abord une lecture de Robinson et des Robinsonnades sous l'angle de l'économie politique, puis sous le prisme de l'écologie, nous sommes avec Jean-Paul Angélibert, professeur de littérature comparée à l'université Michel de Montaigne à Bordeaux. Il a consacré sa thèse de doctorat à la Robinsonnade, thèse publiée sous le titre « La postérité de Robinson Crusoe », un mythe littéraire de la modernité 1954-1986. C'était aux éditions Drault en 1997. Et ce mythe de Robinson Crusoe, il a intéressé jusqu'à Karl Marx, qui en a parlé dans son livre Le Capital.
Notre Robinson, qui a sauvé du naufrage une montre, un grand livre de comptes, l'encre et la plume, a tôt fait de tenir la comptabilité de sa propre personne en bon anglais qu'il est. Son inventaire comporte un répertoire des objets d'usage qu'il possède, des diverses opérations requises pour les produire, et finalement du temps de travail que lui coûtent en moyenne des quantités déterminées de ces différents produits. Et pourtant, toutes les déterminations habituelles de la valeur y sont contenues.
Un extrait lu par Georges Clès. Bonjour Jean-Paul Angélibert.
Bonjour.
On va donc encore parler aujourd'hui de la Robinsonnade comme on l'a fait hier, mais je le disais sous l'angle économique et politique, car depuis sa parution à Londres en 1719, ce personnage de Robinson a fourni un modèle à la pensée politique et donc aussi à celle du grand Karl Marx.
Oui, je vous remercie pour cet extrait qui nous met directement dans le vif du sujet. C'est vrai que Robinson a été beaucoup lu au XIXe siècle comme une allégorie économique ou une allégorie politique, ce qu'il est d'une certaine manière, ce qu'il était dès le départ. Et Marx est sans doute l'auteur le plus connu à faire de Robinson ce personnage qui représente une nouvelle économie. Mais quand Marx écrit ça, il critique ce qu'il appelle les Robinsonnades, et c'est d'ailleurs lui qui invente le mot. Robinsonade, c'est d'abord un mot ironique qui est créé pour se moquer d'une économie politique qui confond l'histoire de Robinson avec la véritable économie. Ce qu'évidemment, si toutes les déterminations de la valeur, comme dit Marx, sont présentes dans le roman, la vraie vie ne se déroule pas sur une île déserte. Et l'île déserte méconnaît un certain nombre de conditions de l'économie.
Oui, c'est lui qui en fait le prototype de l'homo economicus. Mais il faut peut-être rappeler un petit peu ce que c'est que l'homo economicus.
Bon, ce qu'on appellera un peu après l'homo economicus, c'est l'homme déterminé par l'économie. C'est l'homme dont la dimension essentielle de la vie devient l'économie, l'homme qui est soumis à la loi de l'échange et dont les préoccupations sont des préoccupations concrètes, prosaïques, qui viennent du règne de la marchandise. Et Robinson, dans la mesure où il s'affronte à un monde de choses, le premier de cette espèce.
Alors, on va expliquer dans cette émission que ça fait maintenant 300 ans qu'on étudie Robinson sous cet angle de l'économie politique. Et depuis plus récemment, disons quelques décennies, depuis le roman de Michel Tournier, vous nous le direz, on s'intéresse aussi à l'écologie telle que Robinson peut en être l'un des ambassadeurs. Est-ce que, on l'a déjà vu un petit peu hier, Daniel Defoe publie son Robinson Crusoe alors qu'il est connu pour ses pamphlets politiques.
Oui.
Est-ce que c'est important de connaître la vie de Daniel Defoe pour comprendre tout ce qu'il met de sous-texte d'économie politique dans son Robinson Crusoe, puisqu'il a été marchand, comme on l'a vu lundi dernier?
Je suis pas sûr qu'on ait besoin de tout connaître de l'auteur pour interpréter un roman. Cela en général, mais c'est évidemment vrai aussi pour Robinson. Je suis pas sûr qu'on ait besoin de bien connaître l'économie de l'Angleterre du début du XVIIIe siècle pour comprendre Robinson. Parce que c'est finalement un roman assez simple. Évidemment, si on connaît l'économie et l'histoire anglaise du temps, on peut voir sous des détails de l'intrigue, des allusions assez précises que les lecteurs contemporains étaient tout à fait capables de voir à des événements. On peut voir une signification politique tout à fait précise du roman La Défense de Guillaume d'Orange et de la du parti Whig par Defoe, etc. Mais il me semble que le roman a parlé et continue à parler à tous ses lecteurs
sans cela,
sans aucune connaissance préalable.
Mais le fait que Defoe était très attentif à l'actualité, très bien informé aussi, je crois, des découvertes savantes de son temps. Je crois qu'il s'intéressait par exemple beaucoup aux innovations techniques. Il y a un rapport là tout de même avec Robinson Crusoe.
Alors Defoe était un journaliste. Defoe était quelqu'un de très bien informé. Et effectivement, c'était un auteur moderne au sens où il s'intéressait de très près aux découvertes techniques. Il avait été élève d'une école qui était tout à fait en pointe, l'école de Charles Morton, qui possédait des équipements techniques tout à fait rares à son époque, la pompe à air par exemple. Et il s'intéressait d'une manière très rare parmi les écrivains contemporains aux projets de développement, aux projets économiques. Et
il aimait ça d'une certaine manière. Il était du côté du progrès, si l'on peut dire. Du progrès économique et même peut-être de la croissance aujourd'hui.
Avec cet anachronisme qu'est le mot progrès.
Exactement, avec cet anachronisme
qui n'existe pas encore dans ce sens-là. Tout à fait. Il est du côté du progrès. Il y a un essai assez connu, l'essai sur les projets de 1697, donc qui précède Robinson de 20 ans, qui promeut les projets de développement, la construction de routes, de ponts, les inventions techniques, etc. Robinson, avec Defoe, est un homme du progrès.
Et un homme des Lumières aussi.
Et c'est aussi avec un peu d'avance, donc un homme des Lumières, mais en même temps de manière complètement paradoxale, parce qu'il est tout à fait ancré aussi dans une conscience religieuse qui, elle, est une conscience du XVIIe siècle. Mmh. C'est un héritage de Bunyan et du puritanisme anglais du milieu du XVIIe siècle.
Donc il y a ces deux choses-là. Il y a le côté religieux et puis...
Il y a ce conflit dans Robinson qui rend le roman particulièrement intéressant, entre une conscience religieuse extrêmement sévère, c'est un puritain radical dont le but premier est de sauver son âme, et aussi quelqu'un qui est extrêmement intéressé par le monde concret, par le monde comme il va, par l'économie, et qui va trouver justement, c'est ça le nœud du roman, dans l'application à des projets concrets et dans la réinvention d'une économie, la voie de son salut spirituel.
Donc c'est un roman qui raconte aussi comment un individu fait une espèce de transition vers la modernité dans un environnement neutre qui est l'environnement de l'île déserte. Enfin, il y a ce questionnement quand même du puritanisme vers la modernité.
Ouais, il va trouver la voie de son accomplissement dans une réforme personnelle qui passe par une réforme religieuse. Et ça va se traduire par la mise en culture de l'île, ça va se traduire par la transposition sur l'île de ce qu'est en train de devenir l'Angleterre au début du XVIIIe siècle.
Ben justement, à ce sujet, on écoute un extrait du Robinson de Defoe.
C'est alors que je m'appliquai à fabriquer les meubles les plus nécessaires, et je commençai par une chaise et une table. Sans ces meubles, je ne pouvais pas jouir du peu de douceur que j'avais dans le monde. Je ne pouvais pas écrire, ni manger avec tant de plaisir sans une table. Je me mis à l'œuvre, et je ne pus m'empêcher de remarquer que, comme la raison est le principe et l'origine des mathématiques, ainsi, n'y a-t-il point d'homme qui, à force de mesurer chaque chose et d'en juger selon la raison, ne puisse avec le temps se rendre maître dans un art mécanique? Je n'avais manié de ma vie aucun outil, et cependant, par mon travail, par mon application, par mon industrie, je trouvais à la fin qu'il n'y avait aucune des choses qui me manquaient que je n'eusse pu faire, si j'avais eu les outils propres pour cela. Sans outil même, je fis plusieurs ouvrages, et avec le secours d'une hache et d'un rabot seulement, je vins à bout de quelques-uns, ce qui n'était peut-être jamais arrivé auparavant. Mais c'est avec un travail infini. Si, par exemple, je voulais avoir une planche, je n'avais d'autre moyen que celui de couper un arbre, le poser devant moi, le tailler à la hache des deux côtés jusqu'à le rendre suffisamment mince, et l'aplanir ensuite avec mon rabot. Il est bien vrai que par cette méthode, je ne pouvais faire qu'une planche d'un arbre entier. Mais à cela, non plus qu'au temps et à la peine prodigieuse que je mettais à le faire, il n'y avait d'autre remède que la patience. D'ailleurs, mon temps ou mon travail était si peu précieux qu'autant valait-il que je l'employasse d'une manière que de l'autre.
La Compagnie des auteurs et cet extrait interprété en 1961 par Michel Bouquet. Qu'en retenez-vous, Jean-Paul Angélibert?
C'est un extrait auquel je pensais tout à l'heure dans notre conversation. C'est un bel éloge de l'homme ordinaire. Et ce qui a beaucoup frappé les lecteurs contemporains de Defoe, c'est que ce roman était le premier à faire comme cela l'éloge de l'homme ordinaire. Robinson dit bien qu'il n'avait aucune disposition préalable, qu'il n'avait jamais manié d'outil, qu'il ne savait rien faire. Mais à force de temps, d'abnégation, de courage, à force d'application, puisque c'est son mot, il a pu se rendre maître de l'art mécanique en question. Defoe fait l'éloge de l'homme moyen, qui n'a aucun
moyen
don.
Moyen mais courageux quand même.
Moyen mais courageux. Alors, c'est plus tard, le texte sera aussi utilisé, notamment envers les enfants, pour leur apprendre la vertu, l'abnégation, le courage, la persévérance, etc. Être bon et loyaux, sujet de l'Empire. Mais pour Robinson, c'est avant tout l'éloge de l'homme moyen, du petit bourgeois, qui peut tout apprendre par l'usage de sa raison. Le bon sens et de l'application suffisent à se rendre maître des techniques qui nous permettent de faire face à l'adversité. Et en toutes circonstances, on peut s'en sortir. Donc il n'y a pas d'héroïsme là-dedans, il n'y a pas de vertu extraordinaire, mais il y a simplement l'usage de la raison et la foi. Parce que la foi compte aussi dans cette application.
Mais justement, il y a peut-être quelque chose d'assez anglo-saxon aussi là-dedans, dans le travail et dans la foi.
Oui. C'est ce que les Anglais ont toujours revendiqué. C'est aussi ce qui fait que beaucoup d'écrivains anglais sont moqués de ce Robinson qui était un peu trop anglais, un peu trop caricatural. Et ça, c'est une image qui s'est collée à Robinson très très tôt. Mais en même temps, on a traduit, on a adapté, on a exporté Robinson énormément dans beaucoup de pays. Et dès le XVIIIe siècle, on a vu apparaître des équivalents français et allemands de Robinson. Donc, je pense que ce modèle, ce type humain qui est justement celui de l'homme économique, qu'il s'est exporté partout.
Est-ce que vous y voyez là aussi l'une des raisons du succès de ce texte, le fait que les lecteurs peuvent s'identifier assez facilement, si on travaille bien, on peut y arriver, à la figure de Robinson?
Je pense que c'est un texte qui favorise assez, oui, l'identification du lecteur. Et ça marche avec les jeunes lecteurs comme avec les adultes, et peut-être pas seulement parce que ça nous permet de nous flatter en nous promettant la réussite si on s'applique suffisamment. C'est aussi un texte qui a une dimension psychologique assez immédiate. Il y a beaucoup d'épisodes du roman qui montrent la peur de Robinson, ses fantasmes, ses désirs, qui montrent des réactions primaires extrêmement fortes devant des événements surprenants, comme l'empreinte de pied, qui est le plus connu. Et je pense qu'il y a beaucoup de sentiments primaires, immédiats,
que
nous développons, et universels, que nous développons à la lecture de ça. Oui.
Et notamment la recherche du confort qu'on entendait dans cet extrait, c'est-à-dire se fabriquer une table parce que finalement la vie est moins belle sans une bonne table et une bonne chaise, nous dit Robinson.
C'est une dimension qu'on va retrouver chez beaucoup de Robinson ultérieurs. Comment rendre humaine la vie sur l'île, comment s'aménager une vie bonne. Et les réécritures vont beaucoup insister là-dessus. Tournier cite une phrase qu'il attribue à Valéry, où Valérie fait dire à Robinson qu'en mettant une plume à son chapeau, la vie était plus belle. Cette plume à son chapeau n'est visible par personne, évidemment, mais elle est nécessaire à son élégance.
Alors, idéologie bourgeoise de Robinson, nous dites-vous, hein, il y a d'autres interprétations, évidemment, Jean-Paul Angélibert, on y reviendra avec d'autres exemples, mais il y a aussi quand même des choses un peu troublantes qui nous montrent dans le texte que finalement, Robinson sait très bien ce que c'est que l'asservissement par le travail. Et il y a notamment cette citation que je reprends. « Les hommes de labeur dépensaient leurs forces en efforts journaliers afin de gagner du pain, de quoi soutenir ces forces vitales qu'exigeaient leurs travaux, roulant ainsi dans un cercle continuel de peine, comme si le pain de chaque jour était le seul but d'une vie accablante, et une vie accablante, la seule voie menant au pain de chaque jour. » Alors ça, c'est une réflexion qu'il fait dans la deuxième partie, une fois qu'il est revenu de l'île. Donc ça, c'est pas tellement bourgeois comme manière de voir les choses. Il y a même une sorte de critique du
Tout
capitalisme.
C'est-à-dire que Daniel Defoe appartient à une période primitive du capitalisme où l'industrie ne s'est pas développée, la révolution industrielle est encore loin. Et il appartient à une époque où le rêve d'une société de petits producteurs indépendants, libres, qui se développerait sans exploitation, celle que Marx analysera plus tard, est possible. Ce n'est pas encore une idéologie.
Alors sur l'utopie économique que peut constituer cette île, enfin ce lieu et cette situation, je vous propose d'écouter un nouvel extrait de Robinson.
Là, j'étais éloigné de la perversité du monde. Je n'avais ni concupiscence de la chair, ni concupiscence des yeux, ni faste de la vie. Je ne convoitais rien, car j'avais alors tout ce dont j'étais capable de jouir. J'étais seigneur de tout le manoir. Je pouvais, s'il me plaisait, m'appeler roi ou empereur de toute cette contrée rangée sous ma puissance. Je n'avais point de rivaux. Je n'avais point de compétiteurs, personne qui disputât avec moi le commandement et la souveraineté. J'aurais pu récolter du blé, de quoi charger des navires, mais n'en ayant que faire, je n'en semais que suivant mon besoin. J'avais à foison des chélones ou tortues de mer, mais une de temps en temps, c'était tout ce que je pouvais consommer. J'avais assez de bois de charpente pour construire une flotte de vaisseaux, et quand elle aurait été construite, j'aurais pu faire d'assez abondantes vendanges pour la charger de passerilles et de vin. Mais ce dont je pouvais faire usage était seul précieux pour moi. J'avais de quoi manger et de quoi subvenir à mes besoins. Que m'importait tout le reste? Si j'avais tué du gibier au-delà de ma consommation, il m'aurait fallu l'abandonner aux chiens ou aux vers. Si j'avais semé plus de blé qu'il ne convenait pour mon usage, il se serait gâté. Les arbres que j'avais abattus restaient à pourrir sur la terre. Je ne pouvais les employer qu'au chauffage et je n'avais besoin de feu que pour préparer mes aliments.
La compagnie des auteurs et cette lecture de Michael Cohen. Alors là, c'est un rapport idyllique à la consommation qui n'est pas du tout un rapport de prédation que nous décrit Daniel Defoe. On dirait presque un éloge de la décroissance.
Oui, si on veut. Tout à l'heure, dans l'extrait précédent, on avait entendu Robinson dire que son temps de travail était très peu précieux puisqu'il pouvait employer tout le temps qu'il voulait à abattre un arbre, il n'était pas pressé. Là, on vient de l'entendre dire qu'il n'avait point de rivaux, point de compétiteurs. Et c'est une situation économique absolument idéale. Il a tout le temps nécessaire pour travailler puisque son temps de travail ne compte pas.
Il travaille beaucoup néanmoins.
Il travaille beaucoup, mais il n'a que ça à faire. Et il n'a absolument aucune échéance. Rien ne presse. Il n'y a pas de demande.
Au début, les bêtes féroces tout de même pressent un peu.
Mais il n'y en a pas de bêtes féroces puisqu'il découvre très vite.
Mais il a peur de la bête féroce.
Il a seulement peur des bêtes féroces, mais en réalité, il s'aperçoit vite qu'il n'a absolument rien à craindre. Et très très vite, l'île devient beaucoup plus nourricière que menaçante. La figure de l'île se renverse assez tôt après son naufrage. Et donc, il est dans une situation économique extraordinaire, puisque le capital qui lui a été fourni par l'île est absolument gratuit. Les terres sont gratuites, il n'a pas eu à les acheter, il n'a pas eu à les conquérir non plus, puisque l'île est déserte. Et ses outils lui ont été fournis par l'épave. D'ailleurs, on a pu dire de Robinson que c'était un pilleur d'épave et qu'il n'avait pas le droit de se saisir d'outils qui ne lui appartenaient pas.
Enfin, tout de même, il est seul, donc il ne vole à personne.
Il est seul, il n'y avait pas de préjudice dans le roman. Mais on prenait tout à fait au sérieux aussi le fait que des outils dans une épave pouvaient être pillés. Donc, il est tout de même dans une situation économique extrêmement favorable, puisque ses terres, il les a pour rien, ses outils sont aussi gratuits, et le profit de ses travaux lui revient à 100%. Donc c'est un mythe parfait du capitalisme dans lequel le travail est récompensé à 100%, dans lequel il n'y a pas d'échange ni d'exploitation. Donc le capitalisme est à la fois extrêmement facile, productif et innocent.
Donc finalement, ça produit une théorie pure du capitalisme en milieu pur.
Ça en produit ce qu'on peut appeler une théorie pure dans un milieu pur. C'est-à-dire que c'est un mythe parfait qui innocente l'entreprise. Il n'y a pas d'exploitation et qui promeut finalement, ce type d'entreprise. On peut penser que Defoe avait aussi dans l'idée de promouvoir la colonisation, puisqu'il fait de Robinson quelqu'un qui non seulement qui part coloniser cette île et réussit dans son entreprise, mais en plus il trouve son salut, religieux, spirituel, aussi bien que terre à terre, ici-bas.
Alors on peut faire un petit détour par un autre Robinson qui n'est pas le Robinson de Daniel Defoe, mais qui est le Robinson suisse.
Oui.
Alors on peut redire un petit peu que le Robinson suisse, d'abord, ce n'est pas une seule personne, c'est une famille, les parents plus quatre enfants. Et vous en parlez dans votre article, justement pour aller un peu plus loin, finalement, dans un rapport qui est un rapport qu'on peut qualifié de bourgeois, encore une fois, mais peut-être encore plus par rapport à cette situation de l'île déserte. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu pourquoi Jean-Paul Angélibert ?
Oui, donc Le Robinson Suisse, c'est un roman nettement postérieur, il arrive près d'un siècle après, et il est publié donc par Johann David Wyss, qui est suisse, et qui raconte le naufrage d'une famille, le père, la mère, quatre enfants, sur une île déserte, Et ce livre est conçu comme un livre d'éducation à l'usage des adolescents. La petite famille vit des aventures qui nous semblent aujourd'hui certainement assez plates, alors que ça a été un livre qui a été extrêmement lu jusqu'au milieu du XXe siècle, enfin dans les bibliothèques.
L'aventure a un petit peu changé entre-temps.
Mais l'aventure s'est beaucoup affadie, elle s'est beaucoup édulcorée. Il n'y a plus de terreur des bêtes féroces, puisque très vite on découvre que l'île abrite des animaux tout à fait inoffensifs. Et surtout, l'île devient une espèce de livre d'images. Il y a des scènes que je trouve assez amusantes au second degré. Très amusantes parce que les enfants découvrent des animaux tout à fait inoffensifs, qui sont des proies, et des proies qu'ils abattent très facilement. Dans leur mémoire, vérifient que ces animaux ressemblent aux planches qu'ils ont vues dans leurs livres illustrés pour arriver à leur donner un nom. Et le livre abonde en descriptions d'animaux qui sont tirés de livres d'histoire naturelle, comme si l'île était un livre et que dans ce livre, on vérifiait les leçons des livres qu'on a lus.
Oui. Et pour vous, c'est aussi un rapport de possession à l'île.
Et donc, oui, il y a une possession intellectuelle parce que l'île ressemble au livre qu'on a pu lire, et un rapport de possession physique, puisque c'est aussi un territoire à s'approprier, à transformer.
Et à dévorer.
Et à dévorer. Il y a un plaisir de la dévoration évident dans le livre. Les personnages n'arrêtent pas de faire des festins d'oiseaux, de mammifères différents, etc. C'est un livre dont, personnellement, je m'étonne qu'il ait autant plu pendant un siècle et demi.
Alors, une autre Robinsonade qu'on peut lire aussi sous l'angle économique ou de politique économique, voire même d'écologie, on va l'entendre, c'est le livre de Jules Verne, L'île mystérieuse. Michel Tournier en parlait dans cette archive.
Jules Verne a voulu montrer ce qu'on pouvait faire à la fin du 19e siècle. Et il a vidé littéralement les poches de ces Robinsons. Il a dit voilà ce qu'a fait Daniel Defoe avec son pauvre type et son bateau bourré d'instruments. Qu'est-ce qu'il a fait finalement? Des enclos pour les chèvres. Moi, rien dans les mains, rien dans les poches. On coupe la nacelle du ballon, on atterrit. Les poches vides, ils n'ont même pas un couteau de poche. C'est bien souligné, n'est-ce pas? Dans une île qui n'est absolument pas habitable, c'est une espèce d'île noire balayée par les ouragans. Et qu'est-ce qui va se passer? Il va se passer le miracle de la fin du 19e siècle. C'est-à-dire qu'on va voir naître la grande industrie. Car si cette île est noire, ça n'est pas un hasard, c'est parce qu'elle recèle du charbon et du minerai de fer. Et alors, on va voir naître la grande industrie. Ils vont faire du métal. Peu de temps après, on va voir apparaître un ascenseur hydraulique, puis des fils électriques, puis de l'électricité, et le téléphone qui va apparaître dans cette île au bout de quelques années. Et puis ce n'est pas tout. Il y a un moment très émouvant dans le roman de Daniel Defoe. C'est le moment où Robinson trait sa première chèvre domestiquée et boit son lait. C'est la première chose, le premier liquide que lui a apporté l'île. Quel va être le premier liquide que l'île mystérieuse va apporter à Cyrus Smith? Du vitriol, de l'acide sulfurique. C'est monstrueux dans un certain sens, mais c'est génial. Parce que qu'est-ce qu'on ne fait pas avec de l'acide sulfurique? On fait des explosifs. Ils vont faire sauter l'île. Vous voyez qu'il y a une espèce de folie génial dans ces personnages qui sont débarqués sur cette île, et en même temps quelque chose d'un petit peu inquiétant, d'un petit peu diabolique. Je ne crois pas du tout que Jules Verne soit un auteur puéril, n'est-ce pas? Il y a là tout le problème de la civilisation moderne, de la bombe atomique et de la pollution.
La compagnie des auteurs. Vous diriez, vous aussi, comme Michel Tournier, Jean-Paul Angélibert, que finalement Jules Verne, qui vit la révolution industrielle, évidemment, et qui se passionne pour elle, anticipe progrès dans lequel nous sommes aujourd'hui, le monde moderne.
Il l'anticipe peut-être, en tout cas il le vit, il est déjà en plein dedans. Et oui, c'est Robinson, Tournier le dit.
Il est en plein dedans avec l'idéologie de son temps, c'est-à-dire qu'il n'en fait pas vraiment la critique.
Non, Verne est tout à fait progressiste, il est pour le développement de l'industrie et il ne pense pas du tout que le développement de l'industrie contrevient à la vie de la nature. Un des épisodes les plus significatifs de ça, ce n'est pas dans L'île mystérieuse qu'on le trouve, c'est dans une autre Robinsonade de Verne.
Il a beaucoup aimé les Robinsonades.
Il a beaucoup aimé, il en a écrit 4. Celle à laquelle je pense, c'est Seconde Patrie, qui est un petit peu postérieure à L'île mystérieuse, qui est un peu moins souvent lu, mais qui est un bon roman dans lequel, là aussi, une famille se trouve sur l'île. D'une certaine manière, Seconde Patrie réécrit les Robinson suisses. Et le père de famille se met en tête de développer un projet d'irrigation pour lequel il va devoir percer un canal et détourner l'eau d'un lac de son cours. Et un de ses enfants est très déçu par cette initiative et il se plaint auprès de son père parce qu'il a peur que ça fatigue l'eau. Il a peur que ça fatigue l'eau et que ça assèche les végétaux qui profitaient de cette eau pour l'instant. Mais bon, comme d'habitude chez Verne, les travaux vont très très vite. Quelques semaines après, le travail est accompli, le canal est percé, la parcelle que le père voulait irriguer est irriguée. Et puis tout se passe bien, et même on voit la végétation se développer.
Et puis la mère n'avait pas tellement besoin d'avoir davantage d'eau.
Et voilà, ça, l'explication que le père donne à son fils, qui voit que tout est pour le mieux, c'est que finalement, la mère n'avait pas besoin de l'eau de ce lac, parce qu'elle s'y déversait sans profit, et finalement c'est beaucoup mieux qu'elle profite à un champ. Et donc finalement, l'aménagement du territoire dans sa version industrielle, il est puéril de le refuser parce que c'est le signe d'une harmonie de la nature et de l'homme. La technique ne détruit pas la nature, au contraire, elle accomplit ses possibilités. Elle accomplit des virtualités et la technique n'est pas susceptible de cette critique-là, elle n'est pas nuisible.
Oui. Alors, il y a finalement entre le Robinson de Defoe et les Robinsonnades de Jules Verne, la même distance qu'il y a entre l'artisanat et l'industrie lourde. Et c'est là où c'est passionnant de voir qu'un mythe évolue. Décennie après décennie, siècle après siècle, en fonction précisément de l'idéologie de l'époque.
Oui, ça a évolué en un siècle et demi. On est passé de techniques artisanales extrêmement simples qui faisaient l'éloge d'un travail manuel, individuel, que chacun pouvait faire tout seul, à l'industrie lourde. Et évidemment, Verne n'est pas dupe de ça. Il sait très bien que cette reconstitution en accéléré de la civilisation par quelques hommes qui n'avaient qu'une allumette dans la poche en arrivant sur l'île, c'est absolument pas crédible.
Il y a quelque chose qui signifie quoi ? On est dans l'ironie ?
Il y a de l'ironie sous-jacente, évidemment. Verne sait très bien que c'est un mythe. Il sait très bien que Robinson n'existe pas et n'a jamais existé, et que tout seul sur une île déserte, aucun être humain n'a jamais reconstruit la civilisation.
Alors qu'est-ce qu'il cherche à faire ?
Alors Pierre Macheret avait une formule géniale pour dire ça, c'est que Robinson est le sujet fictif d'une aventure périmée. Verne historicise le mythe en montrant que c'est un mythe, en montrant que ça n'a jamais marché, que ça ne marchera jamais, mais par contre c'est un très beau mythe éducatif, et on le garde comme une histoire, mais on le garde comme une histoire tout en montrant que c'est une fiction.
Jean-Paul Angélibert, on va continuer à parler avec vous de Robinson Crusoe et des Robinsonnades qu'il a engendrées juste après la chronique proposée aujourd'hui par Alexis Broca.
La compagnie des auteurs, Mathieu Garrigou-Lagrange.
Alexis Broca du Nouveau Magazine Littéraire, bonjour à vous.
Bonjour Mathieu, bonjour Jean-Paul.
Je parie que Robinson a bercé votre enfance, comme la nôtre d'ailleurs.
Ah oui, Robinson a bercé mon enfance. Il berce encore mon quotidien, puisqu'il m'arrive d'y revenir. Nous préparons en fait quelque chose qui abordera le sujet bientôt, en effet. Voilà, la figure de Robinson, le livre Robinson Crusoe me fascine par sa capacité à la fois à concentrer des problématiques qui sont des problématiques éternelles de l'homme et des problématiques effectivement de son époque. Et puis j'ai été très frappé aussi par les réécritures de Robinson, en particulier celle de Tournier, et en particulier ce renversement
que vous avez pu rencontrer d'ailleurs dans votre jeune vie de journaliste débutant au Nouveau Magazine Littéraire.
C'était une rencontre très émouvante. J'étais allé voir Tournier pour l'interroger sur Vendredi où l'âme du Pacifique, la version enfantine du livre m'avait beaucoup marqué, Vendredi où la vie sauvage. Et d'ailleurs Tournier préférait cette version. Il expliquait que débarrasser des explications philosophiques, débarrasser du jeu de symboles que lui-même trouve un peu lourd, le mythe apparaissait beaucoup plus nu et beaucoup plus vrai. Et puis moi je suis fasciné aussi de voir si vous voulez, on trouve des Robinsons dans les nouvelles de Melville, on trouve des Robinsons dans les contes de Jack London sur les mers du Sud. Je suis fasciné de voir à quel point ce personnage s'est épandu à travers toute la littérature, sans doute en partie parce qu'il est une petite métaphore de notre condition. Nous sommes après tout des Robinsons sur notre petite terre, perdus dans l'océan stellaire. Voilà.
Vous nous en direz plus, je pense, la prochaine fois, quand paraîtra, mais c'est un secret, c'est un dossier secret, du nouveau magazine littéraire. Alors, ce qu'on peut dire, en revanche, c'est que dans le magazine de ce mois-ci, il est question de Franz Kafka.
Voilà, on consacre un dossier à Franz Kafka. C'est toujours intéressant de regarder Kafka, parce que c'est un auteur que nous croyons tous connaître, dès lors que nous sommes face à des complications administratives un petit peu tortueuses, eh bien nous employons l'adjectif kafkaïen. Le mot métamorphose nous renvoie tout de suite aux mésaventures de Grégoire Samsa, qui se retrouve transformé en cloporte ou en cafard, selon son traducteur. Et c'est curieux parce que nous croyons connaître Kafka et en même temps ses textes n'arrêtent pas de nous parler d'un inconnaissable. Les textes de Kafka ont ceci de particulier que ce sont des paraboles qui ne se referment jamais sur une ou plusieurs interprétations. Ces paraboles ouvrent sur l'abîme de toutes les choses qui nous échappent. Voilà, alors ce dossier, il a été coordonné par Fabrice Collin, qui est écrivain et qui est un collaborateur régulier du Nouveau Magazine Littéraire, et aussi par Alain Dreyfus, qui est critique et lui aussi un de nos anciens collaborateurs. Et il commence à s'intéresser à un paradoxe au cœur même de l'œuvre de Kafka. Kafka est un auteur extrêmement lisible. C'est un auteur qui refuse toutes les afféteries de style. C'est avec cette langue extrêmement lisible qu'il nous pose des questions insolubles. Ça débouche sur quelque chose d'intéressant parce que, si vous voulez, nous parlons régulièrement des auteurs d'autrefois en soulignant parfois de manière un peu capillotractée leur modernité. Kafka, lui, on n'a pas besoin de le faire puisque il semble nous parler depuis un présent éternel. Sa singularité est telle que sa parole n'a pas besoin d'être habillée de commentaires pour paraître contemporaine. Et elle n'a pas besoin non plus d'être habillée de biographie. Du coup, on a tendance à le voir comme une comète, comme quelqu'un qui aurait pu débarquer en toute époque. Et pourtant, lorsque les spécialistes s'y intéressent, ils montrent bien que l'œuvre de Kafka est en grande partie liée à son époque. Son obsession pour l'idée de surveillance, de coercition, annonce bien le XXe siècle qu'il inaugure. Et en même temps, il y a d'autres thèmes chez Kafka qui relèvent de l'éternel. Je pense à l'arpenteur du château qui menace une petite communauté, qui est vu comme l'étranger qui menace une communauté. Et là, on est plutôt dans quelque chose de circonstanciel.
Alors, parmi les questions que vous abordez et qu'aborde en particulier son biographe allemand, Rainer Starr, il y a des malentendus sur la figure de Kafka.
Oui, et Kafka, on a tendance, c'est un réflexe de l'esprit humain, nous avons tendance à imaginer l'auteur à la semblance de son œuvre. Alors quand on imagine Kafka, cela donne un petit fonctionnaire, un petit homme gris, étriqué. Pierre Desproges avait un commentaire assez joli dans ce sens-là. Pierre Desproges disait que Kafka était un homme à qui souvent venait l'envie de dire « Bonjour, homme, mon frère, mon semblable, mets ta main sur mon épaule, porte un peu de mon chagrin, viens chanter dans ma vie. » Mais quelque chose l'en empêchait, il disait « Bonjour, monsieur Audradec, espérons espérons qu'il ne va pas pleuvoir. Voilà, c'est comme ça que le voyer perd des proches, et c'est comme ça aussi qu'on a tendance à le voir lorsqu'on ne se fie uniquement qu'à ses lectures. Et en fait, Kafka était tout sauf un petit homme grisâtre. Kafka était un homme qui avait des amis, qui portait des vêtements clairs, qui avait des distractions, qui ne dédaignait pas de temps en temps d'aller visiter les maisons closes. C'était par ailleurs un juriste compétent, un fonctionnaire zélé. Tous ces détails biographiques qui en font un être semblable, voilà, oui. Pas d'une originalité folle, ça l'a pas empêché de poser au monde et aux lecteurs des énigmes qui font vaciller littéralement l'univers autour de nous.
Eh ben merci beaucoup.
Voilà.
Vous nous renvoyez donc au nouveau du nouveau magazine
littéraire,
qui sort demain.
Demain.
Allez, à demain.
Compagnie des auteurs que vous écoutez, vous êtes bien sur France Culture, troisième et dernier moment de nos études de Robinsonade. Nous sommes avec Jean-Paul Angélibert de l'Université de Bordeaux.
Quand on lit Robinson Crusoe, on a le sentiment qu'on doit avoir toujours quand on lit sur ce thème de l'homme solitaire et de l'île déserte, c'est qu'on a envie de le réécrire.
Parce que chacun a sa conception de l'île déserte, de la
solitude. Ah, c'est sûr. Moi, je crois que c'est fondamental. Je crois que si chacun doit écrire un livre, il doit commencer par écrire un Robinson Crusoe. Je crois que c'est le livre fondamental pour tout un chacun. D'ailleurs, c'est ce qui fait l'intérêt du thème, n'est-ce pas ? Chacun se dit, bon, le voilà sur une île déserte, il fait ceci, il fait cela. Moi, qu'est-ce que je ferais à sa place ? Et on essaye d'imaginer ce qu'on ferait à sa place.
Chacun devrait écrire son Robinson, disait Michel Tournier à l'instant. C'est bien ce que beaucoup d'écrivains ont fait, et notamment au XXe siècle. Qu'est-ce qui reste, Jean-Paul Angélibert, du personnage de Defoe dans ces réinterprétations qui sont à chaque fois un peu plus éloignées tout de même de l'original ?
Qu'est-ce qui reste du personnage ?
Du personnage inventé par Defoe.
Oui. Ça dépend des textes, mais on peut dire que le XXe siècle, globalement, l'a renversé. Si je pense à Tournier a fait un Robinson qui est à peu près l'inverse du Robinson de Defoe. C'est ce qu'il a voulu faire explicitement. Son personnage commence comme une caricature du bon anglais appliqué, dur au travail, menant avec application tout ce qu'il a à faire, etc.
Cherchant à reproduire au maximum la société qu'il a connue.
Voilà, c'est l'épisode de l'île administrée dans Vendredi ou les Lames du Pacifique, où il cherche à reconstituer une Angleterre miniature, et où il y arrive très bien, et puis petit à petit, sous l'influence de Vendredi, il va découvrir autre chose, que le roman appelle l'autre île, et à la fin, il va revenir... Il laisse la dépouille du vieil anglais et il devient une espèce d'homme naturel entièrement rendu aux éléments et sa fin est tout à fait mythique mais elle renverse complètement le personnage du puritain que Tournier déteste.
Donc là on passe du mythe de l'homo economicus dont on parlait dans la première partie de cette émission au mythe qui serait celui du retour à la nature, et c'est là où on touche la version écologiste de Robinson.
Il y a un autre mythe, alors celui-là qui émerge sans doute dans les années 60, parce que Vendredi ou les Lames du Pacifique, c'est 1967, qui est un mythe du retour à la nature. Et c'est vrai que là, Robinson va rencontrer des visions de l'île tropicale comme une île où l'on vit sans rien faire, où l'homme se rend à la nature pour être en harmonie avec elle. Donc là, il n'est plus question d'industrie comme chez Verne, il n'est plus question de travail même comme chez Defoe, mais
c'est drôle parce qu'on
d'une espèce d'harmonie primitive.
Tout tourne autour de la question du travail. Et autant, c'est le travail qui est au centre des Robinsonades jusqu'à la fin, même jusqu'à la moitié peut-être du XXe siècle, autant après, les Robinson ne travaillent plus.
jusqu'à la fin du 19e, tout tourne autour du travail. Et après, au 20e siècle, le mythe change de figure. Et la critique passe par là, justement, par la disparition du thème du travail. Chez Giraudoux, que Tournier a lu, évidemment, Suzanne, dans ce roman qui s'appelle Suzanne et le Pacifique, ne travaille pas, ne travaille absolument jamais. Il suffit de cueillir des fruits pour se nourrir. Et dans l'ensemble des Robinsonnades du XXe siècle, on ne travaille pas beaucoup sur l'île, soit parce que l'enjeu du roman est ailleurs, soit parce que justement l'île pourvoit d'elle-même à la subsistance des naufragés, et on a besoin de rien faire ou pas grand-chose.
On pourrait aussi citer le Robinson de Muriel Spark, 1958, oui, qui est dans cette même veine.
Qui est aussi dans une veine critique où Robinson, en fait, n'a rien à faire. Mais ce Robinson-là est assez particulier puisqu'il se fait livrer des boîtes de conserve par avion tous les ans et il vit dans une espèce de retraite spirituelle. L'île est une espèce de refuge contre la violence du monde et effectivement, il n'a besoin de rien faire.
C'est-à-dire que parfois l'île représente finalement le continent, représente la société, notre société, aux différentes époques où sont écrits à chaque fois les Robinsonnades. Parfois l'île est réellement une île.
Oui, c'est ça qui est très productif dans cette image de l'île et qui fait qu'on peut y projeter beaucoup d'intrigues. C'est que c'est un territoire qui peut servir d'une part à isoler les personnages et à leur faire vivre quelque chose qui serait impossible à vivre sur le continent. Donc ça se présente là comme une altérité totale par rapport au continent. Et ça peut servir aussi de laboratoire. On va recommencer dans des conditions pures ce qui se passe sur le continent pour expérimenter un petit peu autre chose, ou parfois pour reproduire exactement ce qu'il fait sur le continent, ce qui se fait sur le continent.
Mais toutes ces utopies sont des échecs. Il n'y a pas tellement de Robinsonnades qui se terminent bien.
Est-ce qu'il y a des Robinsonnades qui se terminent bien,
Robinson Crusoe,
à part celle de Defoe lui-même? C'est vrai que, en cherchant tout de suite, je pense surtout à des Robinsonnades qui se terminent mal. Mais c'est parce qu'on a dans notre imaginaire des textes du XXe siècle, voire du XXIe, au XVIIIe, au XIXe siècle, les aventures se terminaient bien. On était encore dans le siècle du progrès, sur l'île, on faisait des choses positives.
Oui. Parce qu'on a l'impression que c'est quand même toujours, de plus en plus en fait, plus on avance dans le temps, et plus la Robinsonnade a pour but de montrer aussi la nature humaine dans tout ce qu'elle a de plus cruel et de plus violent.
Alors, il y a des textes qui sont écrits dans cette optique-là. Vous pensez sans doute à William Golding, Sa Majesté des Mouches.
Par exemple.
Alors, en effet, William Golding est l'auteur d'une des Robinsonnades les plus lues dans le monde depuis les années 50. Et dans ce texte, c'est un groupe de garçons qui fait naufrage sur l'île. Le roman date de 1954, donc 9 ans après la fin de la guerre, et commence par un épisode qui laisse penser qu'une troisième guerre mondiale a commencé. Les enfants ont été évacués d'Angleterre pour y échapper. Leur avion s'écrase parce qu'il a été bombardé par un avion de guerre. Et ils vont trouver sur l'île un refuge paradisiaque. C'est une île tropicale avec tous les clichés de l'île tropicale. Ils se nourrissent de fruits tombés par terre, etc. Elle est déserte. Mais ça va très très mal se passer parce que les enfants vont se déchirer, ne vont pas arriver à constituer la petite communauté qu'il aurait fallu arriver à organiser pour vivre. Et ça va se terminer par une allégorie de la guerre qui va dévaster l'île.
On en écoute un extrait.
Nous avons vu votre fumée. Que faisiez-vous? Vous jouiez à la guerre?
Oui.
Le regard de l'officier détaillait ce petit épouvantail.
Pas de victimes, j'espère. Pas de cadavres.
Deux seulement. Mais ils ne sont plus là.
Deux? Tués?
De nouveau, Ralph baissa la tête en silence. Derrière lui, l'île tout entière vibrait sous les flammes.
On va vous emmener. Combien êtes-vous?
Ralph secoua la tête en signe d'ignorance. Le regard de l'officier se dirigea par-dessus sa tête vers le groupe de garçons bariolés.
Qui est le chef?
C'est moi.
C'est votre fumée qui nous a signalé votre présence. Et vous ne savez pas combien vous êtes ici?
Non, monsieur.
Il m'aurait semblé qu'un groupe de garçons britanniques aurait réagi de façon plus énergique. Enfin, je veux dire...
Oui, c'était comme ça au début. avant que les choses... Au début, on s'entendait...
Oui, je comprends. La belle aventure, les Robinson.
Ralph fixa sur lui des yeux vides.
Dans Sa Majesté des Mouches, on a à la fois la cruauté, il y a quand même des morts, on vient de le comprendre, ce sont des enfants entre eux qui se tuent, il y a une chasse à l'homme, on brûle aussi l'île. Donc le rapport à la nature est quand même aussi celui de la destruction. Alors évidemment, il y a la bombe atomique peut-être qui est comme en miroir dans l'esprit de Golnin à ce moment-là, mais par rapport à la vision écologiste des Robinsonades, on est aussi dans la destruction quand même de la nature.
Je pense que l'élément déterminant pour Golding à ce moment-là, c'est l'ombre de la Deuxième Guerre mondiale et c'est la bombe atomique. Il faut peut-être situer l'extrait qu'on a entendu, c'est la dernière page du roman, au moment où Ralph, le garçon qu'on a entendu, vient d'échapper à une course-poursuite. Il était condamné à mort par la bande de garçons redevenus sauvages et il en a réchappé d'extrême justesse. Parce qu'un navire s'est arrêté là, on a entendu le commandant de ce navire. Le commandant a vu la fumée de ce qu'il appelle le feu des garçons, mais en fait c'était l'incendie que les sauvages avaient allumé pour pourchasser Ralph. Et l'ironie du roman, elle est dans le fait que les garçons avaient essayé, au moment où ils tentaient de s'organiser entre eux, de tenir allumé un feu pour se signaler, qu'ils n'avaient jamais réussi à le maintenir allumé.
Et du coup, ils avaient perdu l'occasion d'être sauvés au moment où ils étaient encore ensemble, au moment où ils ne se faisaient pas la guerre.
Oui, et c'est au moment de la destruction totale de l'île et d'une chasse à l'homme qui va se finir en meurtre que les garçons arrivent à se signaler.
Ça pose une question, peut-être moins Sa Majesté des Mouches que le Robinson Crusoe de Daniel Defoe. C'est la question de l'individu par rapport à la société. Peut-on vivre seul ou peut-on vivre, alors là c'est plutôt Sa Majesté des Mouches, dans un groupe isolé du reste du monde. C'est vrai que c'est difficile la vie en société, mais quand on tente littéralement une expérience où on s'extrait de cette vie en société, on a le sentiment que c'est un échec.
Je pense que Defoe montrait que cette vie solitaire était l'opportunité d'une réforme spirituelle et donc elle était tout à fait envisageable et que c'est une idée qui a été abandonnée par ses successeurs, qu'ensuite on s'est beaucoup plus intéressé à la Robinsonade collective. Une grande majorité des textes ultérieurs mettent en scène des Robinsons qui recomposent de micro-sociétés. Et la Robinsonade se présente souvent comme un laboratoire de la reconstruction d'une société. Ce sont des micro-laboratoires politiques où on reconstitue comme en vase clos les conditions d'émergence d'une société. Et comme Robinson Crusoe l'était déjà, toute la tradition de la Robinsonade consiste en quelque sorte à se donner les moyens expérimentaux de reconstruire la société.
De la reconstruire en étant à chaque fois, au fur et à mesure des Robinsonades, un peu moins en lien avec la question religieuse. Ça aussi, c'est quand même quelque chose qui est très marquant, c'est que Dieu disparaît de plus en plus des Robinsonades.
Oui, c'est tout à fait vrai.
Ou alors il se change.
Aujourd'hui, les Robinsons sont laïcs. Et si on pense à un roman que j'aime beaucoup, qui est une des très grandes Robinsonades du XXe siècle, qui est le roman de John Coetzee, Foe.
Vous êtes un spécialiste par ailleurs de cet écrivain.
Il se trouve que j'ai aussi écrit sur Coetzee. Foe est un roman dans lequel Robinson ne manifeste aucune croyance, il ne prie pas, on ne le voit pas tenir de journal, on ne l'entend tenir aucun propos religieux. Par contre, le seul personnage de l'histoire qui exprime un souci religieux, c'est Vendredi. Et là, il y a un renversement qui est très intéressant. Le personnage le plus énigmatique, celui dont la vie spirituelle demande notre intérêt, c'est Vendredi.
Et évidemment, Coetzee a en tête la question de l'apartheid et aussi de la colonisation.
Alors c'est un roman de 1986, donc on est encore sous l'apartheid en Afrique du Sud. Et on peut voir son roman comme une allégorie de l'Afrique du Sud avec le maître blanc, l'esclave noir. et une espèce de temps figé qui était le temps de l'apartheid. On n'avait aucune idée de du délai qui pouvait séparer l'Afrique du Sud de l'abolition de ce régime. En 86, on n'avait aucune idée de son abolition prochaine.
Et on voit là la très grande plasticité finalement, oui, de ce mythe de Robinson qui s'adapte, on l'a compris, je crois, avec vous aujourd'hui, à toutes les époques et à toutes les sociétés. Merci Jean-Paul Angélibert. De vous, on peut citer par exemple l'ouvrage La postérité de Robinson Crusoe, un mythe littéraire de la modernité 1954-1986, publié chez Dro en 1997, et puis plus proche de nous, votre livre Coetzee et la littérature européenne, écrire contre la barbarie, publié aux presses universitaires de Rennes en 2007. C'était La Compagnie des auteurs, une émission de Didier Pinault, Anne-Vanessa Prévost, Laurence Millet, Laurence Genepin, Garance Mazelier et Jean-Guilain Meige. Demain, nous parlerons des femmes oubliées de l'histoire littéraire. Ce sera avec Éric Dussert, mais pour l'heure, vous avez rendez-vous avec la poésie, choisie et lue comme chaque jour par Jacques Bonnafé.
Bonjour, bonjour Mathieu, bonjour la compagnie. Pauvre monde. Idéa Villarino ne parle pas seulement de ses douleurs d'amour, maudit Juan Carlos. Elle parle aussi du monde, pauvre monde. Ils vont le défaire, il va voler en pièces. Il crèvera à la fin comme une bulle, ou explosera en gloire comme une poudrière. Ou plus simplement, s'effacera comme si une éponge mouillée effaçait sa place dans l'espace. Peut-être ils n'y arriveront pas. Peut-être le nettoieront-ils. La vie lui tombera comme une chevelure et il restera à tourner comme une sphère parfaite, stérile et mortelle. Ou moins joliment, il ira par les ciels pourrissant en douceur, comme une seule plaie, comme un mort. On est toujours seul, mais parfois encore plus seul. Dire non, m'attacher au mât, mais désirant que le vent le renverse, que la sirène monte et qu'avec ses dents, elle coupe les cordes et m'entraîne au fond, moi disant non, 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 mais qui la suit. Définir sa poésie comme un jasmin léger qui tombe en se tenant à l'air, qui tombe, 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 et il va faire quoi ? Et voilà, ça s'appelle « Voilà, portrait d'Idéa, voilà ». Ma fatigue, mon angoisse, ma joie, ma frayeur, mon humilité, mes nuits toutes, ma nostalgie de l'année 1930, mon bon sens, ma révolte, mon mépris, ma cruauté et ma peine, mon abandon, mes larmes, mon tourment, mon héritage inaliénable et douloureux, ma souffrance, enfin... ma pauvre vie. Celui-ci a plus rien à dire, comme un disque fini qui tourne et tourne et tourne sans plus de musique, têtu et muet et oublié. Voilà, comme ça. Et pour terminer, la nuit. La nuit, ce n'était pas le rêve, c'était sa bouche. C'était son beau corps dépouillé de ses gestes inutiles. C'était son visage pâle me regardant dans l'ombre. La nuit, c'était sa bouche, sa force et sa passion. C'était ses yeux graves, ses pierres d'ombre qui roulaient dans mes yeux. C'était son amour en moi, une invasion si lente, si mystérieuse. Et puis, en exergue du livre que nous avons parcouru presque au hasard, « Choses que j'ai dites et vers que j'ai écrits au petit matin et partiront là-bas comme déchets, comme restes d'une âme de quelqu'une qui fut ici. » Qu'est-ce que c'est ? Le temps ? La vie ? De quoi l'on meurt ? Je mourrai de vie et non de temps. Ces mots de César Valero, on les croirait écrits pour elle. Ultime anthologie à l'épure sombre d'Idéa Villarino.
Merci Jacques Bonnafé pour ces textes autour d'Idéa Villarino.